Ça va, toi? C'est le moment des vacances, n'est-ce pas? Ou du moins de la période des vacances où on part en voyage. Dans ces cas-là, chacun quitte sa maison, laisse les clés de la maison à des amis et donne des consignes. Arrose le jardin pour moi, s'il te plaît. Surveille le congélateur en cas d'orage. Vérifie la boîte aux lettres si la boîte aux lettres déborde. Et ainsi de suite, on délègue des responsabilités. Et de la même manière, voici un texte biblique où Jésus raconte une parabole similaire d'un maître qui part en voyage. Et nous allons lire un passage donc dans Matthieu 25 à partir du verset 14. Matthieu 25 à partir du verset 14. So we will, our text for this morning is Matthew chapter 25 from verse 14. Matthieu 25, à partir du verset 14. C'est Jésus qui parle. Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. C'est les vacances, on va dire. Il en était comme d'un homme qui allait partir en voyage, et il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 500 pièces d'or à l'un, 200 pièces d'or à l'autre, et 100 au troisième, chacun selon sa capacité, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla, les fit valoir et en gagna 500 autres. De même, celui qui avait reçu les 200 pièces d'or en gagna 200 autres. Mais celui qui en avait reçu que 100 alla faire un creux dans la terre et cacha simplement l'argent du maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 500 pièces d'or s'approcha en apportant les 500 autres. Et il dit, « Seigneur, tu m'avais remis 500 pièces d'or, voici, j'en ai gagné 500 autres. » Et son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Viens te réjouir avec moi. » Celui qui avait reçu les 200 pièces d'or s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 200 pièces d'or, voici, j'en ai gagné 200 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens te réjouir avec moi. » Celui qui n'avait reçu que 100 pièces d'or s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas répandu de graines. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas répandu de graines. Il te fallait donc remettre mon argent à des banquiers. Et au retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc ces pièces d'or et donnez-lui à celui qui en a 1000. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qu'on n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » À chaque fois que nous avons un message important à faire passer, nous utilisons des grands discours. Plus c'est important, plus le discours est compliqué et plus le discours est long. À l'inverse, Jésus, le meilleur prédicateur, utilisait des images toutes simples, des histoires toutes bêtes, des anecdotes du quotidien pour faire passer des messages importants. Une fois, il nous parle d'un semeur dans son champ, d'un père et de ses deux fistons, d'une maison en construction sur du sable ou du rocher, et dans notre cas, d'un maître parti en voyage, en vacances, et trois de ses serviteurs restés à la maison. Une histoire simple, mais un message important. Qu'est-ce que Jésus veut bien nous dire à travers cette parabole ce matin? Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire toute simple. Cette parabole vient s'inscrire dans le chapitre 25 de Matthieu, un chapitre connu qui parle du jugement dernier, du jour où nous aurons à rendre compte devant Dieu. Juste avant cette parabole, il y a la parabole, vous la connaissez aussi, des 10 jeunes filles qui ont de l'huile et qui doivent attendre, veiller jusqu'à ce que le maître revienne. Certaines filles ont pris suffisamment d'huile, d'autres pas assez, deux attitudes différentes. Juste après notre parabole, toujours dans le chapitre 25, la célèbre description du jugement dernier à travers l'image des boucs et des béliers. Seigneur, quand avons-nous donné à manger? Quand avons-nous visité? Etc. Et donc au milieu, la parabole du maître et des trois serviteurs, dite parfois la parabole des talents. C'est aussi comme ça qu'on l'appelle. So, a very simple story from Jesus, a very simple Jesus, but a very important message. When we have something important to say, we make very long speeches. But Jesus, when he has an important message, he says something very, a small story from daily life. What Jesus wants to tell us this morning? La première question que l'on se pose quand on lit une parabole, c'est à qui dois-je m'identifier? Qui suis-je dans cette histoire? J'en suis sûr que quand on a lu la parabole, dans votre tête, vous vous êtes dit, alors, qui est Dieu? Qui suis-je dans l'histoire? Bon, vous êtes dit, non, je vais pas être le premier des serviteurs quand même. Celui qui aurait reçu 500 pièces d'or, c'est orgueilleux de ma part. Je suis quand même pas gâté pourri à ce point-là. Non, pas la première place. Votre orgueil vous a aussi dit, pas la dernière. Je suis pas le dernier de la classe, d'autant plus que le dernier, il se fait taper sur les doigts. Donc, non, pas le dernier. Le second personnage, il est confortable. Ni trop, ni pas assez. Le juste milieu. Mais quelle erreur de vouloir se restreindre à un seul serviteur. Et j'aimerais ce matin que vous ne vous identifiez pas à ce second serviteur. C'est trop confortable d'avoir cette place-là. Et ça nous empêcherait de nous remettre en cause, d'aller de l'avant et de laisser Jésus nous toucher. Ne nous réfugions pas derrière ce second personnage. Ça serait la meilleure manière de ne pas comprendre le message de cette parabole. Prenons le temps ensemble de nous laisser interpeller. Et j'aimerais pouvoir analyser cette parabole en quatre réflexions. Quatre réflexions. Mais avant, nous allons prier. Seigneur, nous te demandons ton esprit, Seigneur, pour comprendre ce texte que tu nous as laissé, ton esprit pour comprendre comment cela s'applique dans nos vies, et ton esprit, Seigneur, pour nous donner de le mettre en pratique, comme ça nous a été rappelé déjà ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous te prions pour cela. Amen. So, we will read this text in four parts, and I'll start by the first one. Dans un premier temps, première réflexion, j'aimerais parler du fait que nous appartenons à Dieu. Nous sommes ses serviteurs. Car paradoxalement, ce qui m'a touché quasiment le plus dans le début de cette parabole, c'est ce premier verset, verset 14, « Il en sera d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » En grec, ça s'écrit « ses propres serviteurs à lui ». C'est quelle insistance ? Ses propres serviteurs à lui. Sommes-nous conscients, nous-mêmes, d'appartenir à Dieu ? Nous aimons bien nous déclarer serviteurs de Christ, ses propres serviteurs à lui. Nous aimons bien l'appeler Seigneur, Seigneur, mais sommes-nous conscients de la portée de ces mots ? Sommes-nous conscients ? La réalité, c'est que oui, nous avons été créés par Dieu, et dans ce sens-là, nous lui appartenons. Mais nous lui appartenons d'autant plus depuis le jour où il nous a rachetés à grand prix, depuis le jour où par la mort rédemptrice de Jésus-Christ, il a fait de nous ses serviteurs, et même mieux, ses enfants. Vous connaissez ce verset de Romains 7 qui dit « Mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ, pour appartenir à quelqu'un d'autre. » Pour appartenir à quelqu'un d'autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Voilà la réalité des choses. Voilà la vérité. Mais vivons-nous en accord avec cette vérité? We belong to Christ, as a servant belongs to the master. We belong to Christ, thanks to Jesus Christ. And my question is, do we live according to? Vivons-nous en accord avec cela? C'est si facile pourtant, c'est triste, mais c'est si facile de garder un peu sa vie pour soi, de ne pas laisser Jésus régner dans toute notre vie, de ne pas tout lui remettre entre ses mains, nos peurs, nos doutes, nos préoccupations. Que celui qui ne se sente pas concerné me jette la première pierre. Si une maison vous appartient, vous avez acheté une maison vous appartient, vous venez de l'acquérir, vous êtes tout fier, mais on vous dit que vous n'avez pas accès à toute la maison. Finalement, cette maison m'appartient, moi j'ai envie d'aller voir partout, j'ai envie que rien ne me soit caché. Mais on vous dit, non, tu as accès seulement au hall d'entrée et au couloir. Le reste, c'est à toi, mais tu n'as pas le droit d'y aller. Pourtant, c'est malheureusement ce qu'on fait à Dieu, n'est-ce pas? Il nous a rachetés, notre corps est le temple de son Saint-Esprit, nous sommes son temple, et pourtant, combien de fois nous le laissons dans le hall d'entrée, un tout petit peu, mais jamais pleinement. Pourtant, nous appartenons à Christ. Colossiens chapitre 2, verset 20. Pourquoi vivons-nous comme si de rien n'était? Pourquoi vivons-nous comme si de rien n'était? Comme si nous appartenions encore à ce monde, nous dit Colossiens 2. Pourquoi vivions-nous comme si de rien n'était? Comme si nous appartenions à ce monde. Première réflexion, cette parabole vient donc nous rappeler que nous sommes les serviteurs de Dieu, ses serviteurs à lui. Et cette parabole, donc au chapitre 25, juste avant l'arrestation et la crucifixion de Jésus, nous rappelle quel est le prix que Dieu a payé pour que nous lui appartenions. Ne l'oublions pas et ne vivons pas comme si de rien n'était. Seconde réflexion. J'aimerais m'arrêter sur le verset 15 cette fois-ci. Quand Jésus nous dit que Dieu confia ses biens à chacun selon ses propres capacités. Dieu a donné à chacun, mais selon chacun ses capacités. Le maître, avant de partir, leur a laissé une grande fortune. Le maître a donné ses biens. Ce qui lui appartenait, il l'a donné. De même, Dieu a sacrifié son propre fils. Il nous a donné son esprit. Et aujourd'hui, il nous équipe lui-même de dons spécifiques, différents.
My second reflection is about the fact that God gave us to everybody, but to everybody in a different manner. I don't know how it's written in your Bible, but everybody with a different gift.
Dieu fait grâce. Dieu fait grâce et personne d'entre nous ne mérite d'avoir quoi que ce soit. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Vous connaissez ce verset? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Non, Dieu fait grâce et donne à chacun selon ses capacités. Afin que personne n'ait rien à faire, mais que personne n'ait trop à faire. Et que chacun ait de quoi faire fructifier. Dieu fait grâce à tous et donne à chacun selon ses capacités. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu fait grâce à tous. La seule chose que nous méritions, de par notre nature, de par notre rébellion, c'était la mort, loin de Dieu. Donc à partir du moment où Dieu nous a donné la vie éternelle, il nous a appelés à sa suite. Il nous permet d'avoir foi en lui et d'être son serviteur. Alors Dieu a déjà fait, à ce moment-là, preuve d'une grâce infinie.
The only thing that we deserve was death, far from God. And since he gave us at least eternal life, thanks to Jesus Christ, everybody has already received the biggest gift that is possible, the eternal life.
Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est un don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, avoir été appelé, avoir été choisi par Dieu, constitue déjà le plus grand des dons possibles. Et ainsi, personne ici ne peut se dire avoir été oublié de Dieu et n'avoir rien reçu de sa part. Nous avons tous eu l'occasion de connaître Dieu, tous eu l'occasion de le connaître. Et dans ce sens-là, personne ne peut dire avoir été oublié. Dieu n'oublie personne.
God forgets nobody. Everybody has received something. Nobody is forgotten. And in the text, it's the same thing. Even if the third servant receive 100 gold talents. Talenten in Dutch.
D'ailleurs, dans le texte, personne n'est oublié non plus. Regardez, combien reçoit le dernier serviteur? Le troisième, il reçoit combien? 100 pièces d'or. Est-ce que vous savez à combien ça correspond? Avec la monnaie de l'époque. 17 années de salaire. 17 années de salaire. Le plus petit des dons, c'est 17 années de salaire. Au minimum, Dieu donne 17 années de salaire. Que celui qui considère que c'est pas grand-chose vienne me faire un chèque à la fin. De même, Dieu n'oublie personne. Et il a au minimum donné bien plus que ce que nous aurions pu avoir par nous-mêmes. La vie éternelle en Jésus-Christ qui nous était impossible d'avoir. Et en plus, par grâce, toujours, certains dons spécifiques de par le Saint-Esprit qui est en nous. Chacun selon sa propre capacité. En effet, Dieu ne nous appelle pas tous à la même chose. Il ne nous appelle pas tous à porter les mêmes fruits, à avoir le même rôle. L'Église a besoin de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous, tel qu'il est, avec le caractère, avec les dons spécifiques que Dieu lui a donnés.
God doesn't ask us to be everybody the same. He gives us different talents to everybody, and he wants everybody. And we can read some verse in Romans chapter 15, from verse 4.
Dans un corps humain, nous avons différentes parties qui font des fonctions bien différentes. Nous avons des dons différents et que nous devons utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un d'entre nous a le don de transmettre des messages de Dieu, il doit le faire. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Que celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager doit encourager. Celui qui a le don de donner ses biens doit le faire avec générosité. Celui qui doit diriger le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Etc. Etc. Que celui qui a reçu un don le fasse fructifier, comme dans notre parabole. Dieu nous a donné selon nos capacités, selon comment il nous a fait et selon ce à quoi il nous destine, chacun d'entre nous. À chacun donc son bagage, mais Dieu est juste et nous appelle tous à faire fructifier ce qu'il nous a donné. Au minimum 17 années de salaire. Dieu n'oublie personne. L'apôtre Paul dira à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Certains pourraient dire, dans cette parabole, Dieu, le maître donne différentes choses. 500, 200, 100. Je crois que c'est la preuve de la justice de Dieu. Il est juste, il donne à chacun juste ce qu'il faut. Et regardez une autre preuve de la justice de Dieu. Regardez ce que Dieu donne aux deux premiers serviteurs en retour. Exactement la même chose. En retour, Dieu bénit le maître. Excusez-moi lapsus, mais bon, vous m'aurez compris. Le maître bénit exactement de la même manière celui qui avait donné 500 et 200. Dieu est juste. Il dit aux deux, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. 17 années de salaire, peu de choses. Je te confierai beaucoup, viens te réjouir avec moi. Versets 21 et 23, exactement la même chose aux deux. Pas de classement, pas de meilleur. Simplement la même phrase pour les deux qui ont pris la peine de faire fructifier ce qui leur avait été confié. Dieu les a invités à rentrer dans sa joie, tous les deux. Genèse 18, il n'est pas possible que le juge de toute la terre ne respecte pas la justice. Dans cette parabole, Dieu est juste.
It's amazing to see how God blessed exactly in the same manner the two first servants. One, it was as more more money than the other, but at the end, is that a proof of the fact that God will be not just? No, at the end, he gave exactly the same blessing to both. And that's definitely a proof of the righteousness of God. Deuxième réflexion donc, dans sa grâce et dans sa justice, Dieu nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ et des dons spécifiques, chacun selon ses capacités. À nous, en retour, de les utiliser et de les faire fructifier. Troisième réflexion. Il y a un autre verset. On continue, on a vu le 14, on a vu le 15, maintenant on va voir le verset 16. Je vous promets, après on accélère. Verset 16, un petit verset. Aussitôt celui qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla. Aussitôt. Il n'est pas écrit, une fois les 500 pièces d'or reçues, le serviteur alla d'abord labourer le champ qu'il était en train de finir, chercher un veau, le prépara à manger. Il alla nettoyer l'allée principale, il y avait eu du vent la veille, donc il fallait tout nettoyer. Ensuite, il est allé en ville faire des courses. Il est allé à Castorama, il fallait aller acheter des outils, donc il y allait. Après, il est allé à la maison de la Bible acheter un CD de musique. Et puis après, il a commencé à faire fructifier ce qu'il avait reçu. Non. Aussitôt, il y alla. De même, dans Luc 5, quand Jésus appelle Lévi, que fait Lévi ? Est-ce que Lévi va faire un détour, va se préparer, va faire des courses au supermarché avant de suivre Jésus ? Non. Luc 5, verset 28, Lévi se leva, laissa tout et suivit Jésus. Aussitôt. In that text, the first servant, when he received the order of the master, he obeys immediately. Not, it doesn't take time to do some stuff, to go back to home, to clean something. No, immediately he obeys. And it's the same for us when God asks to do something. When he calls us, we have to follow him immediately, not tomorrow, not the next week, or it's today. Que ce soit que Dieu vous appelle à se tourner vers lui, à vous convertir, ou à faire fructifier ce qu'il vous a déjà donné, votre salut, et éventuellement un don spécifique spirituel, il ne nous faut pas attendre, ou sinon nous pouvons nous endurcir. Et là, c'est un avertissement. Hébreux 3 nous dit, « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. » Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et là, je voulais vous poser une question à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui, dans votre vie, peut être plus important que de répondre à Christ maintenant ? Qu'est-ce qui peut être plus important ? Oh, nous avons tous des contraintes dans notre vie quotidienne. Nous avons tous des contraintes. Moi, au travail, j'ai un projet qui arrive bientôt à terme. J'ai 3 filles à la maison qui me demandent, j'ai des artisans à recevoir à la maison, j'ai plein de choses à faire. J'aurai toujours une excuse pour répondre à Dieu demain. Nous avons tous des contraintes, et peut-être même autant que Lévi et que de notre serviteur, de notre parabole. Dieu nous donne du temps. Le temps lui-même est un don. Qu'est-ce que j'en fais ? Comment je le gère ? Quelle place je réserve à Dieu dans le temps qu'il m'a donné. 24 heures par jour. Quand on a pris 5 minutes avec Dieu, on est tout content. Ouais, j'ai pris 5 minutes avec Dieu aujourd'hui. 5 minutes sur 24 heures. Et n'oublions pas qu'à la fin, nous aurons des comptes à rendre. En effet, cette parabole, je vous le rappelle, s'inscrit dans le chapitre 25 de Matthieu. C'est un chapitre sur le jugement dernier. Et dans cette parabole, comme dans les autres, Dieu est dépeint comme un maître qui demande des comptes à la fin. À qui nous devons rendre des comptes ? Dieu fait grâce, mais Dieu demande des comptes. Il ne faut oublier aucun des deux aspects. Si Dieu ne faisait que grâce, mais sans jamais demander de comptes, ou l'inverse, pire, s'il demandait des comptes, mais sans avoir fait grâce à l'origine, Dieu serait injuste. Or,
Dieu est juste. Dieu fait grâce, mais Dieu demande des comptes. Et dans cette parabole de ce chapitre 25 de Matthieu, Jésus nous rappelle à tous la réalité du jugement dernier et qu'on ait des comptes à rendre. Qui que l'on soit, que l'on ait été un bon serviteur, un mauvais serviteur, nous aurons tous des comptes à rendre. Alors, n'attendons pas et répondons favorablement à Dieu dès aujourd'hui. Ne restons pas les bras croisés, mais faisons fructifier ce qu'il nous a donné et mettons en œuvre notre salut. Non demain, non après-demain, mais aujourd'hui. Et laissons-nous encourager par ce serviteur qui aussitôt fit valoir ses 500 pièces d'or, ou encore par Lévi qui se leva, laissa tout et suivit Jésus. Dieu nous appelle maintenant.
God gives us a lot of things, but at the end, He asks us what He asks us to look our life and to see if we obey or not. And in this text, God gave a lot of money at the beginning, but at the end, He asks us, "What did you do with my money?" And it's the same thing in our life. He gave us His Son, He gave a new life, but one day He will ask us, "Have you obeyed? Have you followed me?"
Dernière et quatrième réflexion. Nous sommes obligés de nous intéresser au troisième serviteur. Le troisième serviteur, celui qui s'est fait taper sur les doigts. Celui qui n'a pas cherché à faire fructifier son maître, ce qu'il lui avait confié, 17 années de salaire malgré tout. Pourquoi ce serviteur n'a pas pris la peine d'aller au minimum à la banque? Est-ce que vous le voyez dans le texte? Comment il se justifie? Comment il se justifie? Pourquoi il n'a pas fait ça? Est-ce que vous le voyez dans le texte avec moi? Verset 24, quelle est l'excuse qui sort? Mais je savais que je croyais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, blablabla, blablabla. Bla. Je savais. Pourquoi notre serviteur n'a rien fait? Car il croyait savoir. Il croyait savoir quelque chose de faux. Il était persuadé d'une chose, donc il est resté dans sa mauvaise compréhension de Dieu. Et il n'a refusé de changer. Pourtant, Dieu était dur, était sévère, et même le jour où il a découvert que Dieu pouvait être généreux, que Dieu pouvait lui faire confiance, que Dieu pouvait lui donner des responsabilités, Dieu a révélé une nouvelle facette à ce serviteur. Malgré tout, ce troisième serviteur, il est resté sur sa position initiale. Non, je sais que tu es un maître dur, et je refuse de changer, alors que pourtant, Dieu se révèle différemment. Chers frères et sœurs, savoir changer, savoir se remettre en cause, c'est dur. Savoir se laisser transformer par Dieu à l'image de son Fils. Savoir être à l'écoute de Dieu, même quand ça va à l'encontre de ce qu'on pensait savoir. Savoir accepter tout simplement que Dieu est infini et que nous ne pourrons jamais le connaître pleinement et qu'il nous faut toujours ainsi lui obéir et apprendre de lui. 1 Corinthiens 8, celui qui s'imagine connaître quelque chose, en fait, il connaît rien comme il devrait connaître. Nous n'aurons jamais fini d'apprendre et de connaître Dieu. Ne nous entêtons pas quand nous apprenons quelque chose de nouveau. In my last part of my speech, just would like to look with you with the third servant and why did he do nothing? In fact, he just said, "Oh, I thought that you was a hard master and I thought something. It was wrong, but I was convinced on that and I refused to change. And it's I think it's definitely a warning for us. Sometimes we believe something, and if God tell us something new, we have to change, we have to accept, to be transformed, and not to stay on our initial position.
Connaissez-vous l'histoire d'Élie dans le désert? Élie qui est désespéré, chapitre 19 de 1 roi. Élie, c'est un grand prophète de l'Ancien Testament, et à un moment, il est désespéré. Il se met dans le désert, en plein cagnard, et il attend.
Dieu veut aller l'encourager. Et comment Dieu va se manifester à Élie ? Je lis 1 Roi 19, 11 à 13. L'Éternel dit, « Sors, tiens-toi sur la montagne, l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après, il y eut un tremblement de terre terrible. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu, un grand feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et puis après, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tient à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Élie, que fais-tu ici ?» Et après, ça continue. Dieu se révèle d'une manière inattendue, à travers un simple murmure doux et léger. Que se serait-il passé si Élie n'avait voulu écouter Dieu que dans le vacarme d'un tremblement de terre ou d'un feu ? Si Élie était resté sur l'idée que le Dieu d'Israël, le Dieu de l'univers, ben ça se révèle dans les sept plaies d'Égypte, dans l'immensité de la mer Rouge asséchée, dans les orages du mont Sinaï, dans le fracas de la muraille de Jéricho, c'est ça l'Éternel. Si Élie n'avait voulu écouter l'Éternel que dans ces conditions, il n'aurait jamais entendu l'Éternel. Mais non, Élie a su se mettre à l'écoute lorsque Dieu s'est révélé d'une manière inattendue, un murmure doux et léger. Et à l'inverse, notre troisième serviteur est resté sur sa mauvaise conception. Il a refusé de changer. Quelle erreur de sa part ! Mais quelle erreur de notre part également quand nous refusons de nous laisser surprendre et transformer par Dieu. Quelle erreur de notre part, et le jugement de Dieu est alors terrible. Il y aura des grincements de dents et des pleurs. Mais c'est un jugement juste, juste. Dieu a fait grâce à tous, donc le jugement est juste. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, que ce soit dans un tremblement de terre, dans un feu, dans un orage, ou dans un murmure doux et léger, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. » C'est ma conclusion. J'arrive à ma conclusion. Voilà ce que je voulais vous partager sur cette parabole connue, dite des talents. Nous avons étudié cette parabole autour de quatre réflexions. Je me permets de vous les remettre en mémoire avant de vous laisser. Première réflexion, nous appartenons pleinement à Dieu. Il nous a rachetés à grand prix. Ne vivons pas comme si de rien n'était, s'il vous plaît. Ne vivons pas comme si de rien n'était, comme si nous appartenions encore à ce monde et non à Dieu. Deuxième réflexion, Dieu nous a fait grâce à tous et nous a donné à tous chacun de quoi le servir. Ne négligeons pas le don qui est en nous. Le principal don, je vous rappelle, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et en plus, certains dons spécifiques, chacun selon ses capacités, ni trop ni pas assez. Troisième réflexion, Dieu nous appelle demain, aujourd'hui. Il nous appelle aujourd'hui à lui obéir, à le suivre, à le faire fructifier ce qu'il nous a donné. Ni demain, ni après-demain, mais aujourd'hui. N'endurcissons pas nos cœurs. Quatrième réflexion, Dieu est infini, nous n'aurons jamais fini de le connaître, alors ne nous entêtons pas quand nous découvrons quelque chose de nouveau de lui et de sa volonté pour nous. Et en filigrane de ces quatre réflexions, la justice de Dieu qui transparaît à chaque verset. Dieu est juste. Chers frères et sœurs, faisons fructifier ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ et par son Esprit. Et quelle joie le jour où Dieu reviendra dans sa gloire et nous dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Viens dans la joie de ton Maître. Viens te réjouir avec moi. » Amen. Éternel, tu es juste en toutes choses. Tu nous as fait grâce à tous. Tu nous as donné ton Fils, c'est Jésus-Christ.
Et nous n'avons pas eu ce que nous méritions, mais nous avons eu ce que nous ne méritions pas. Tu fais grâce, Seigneur. Et tu es juste. Seigneur, nous voulons te suivre, t'obéir dès maintenant, à ta suite. Nous voulons nous laisser transformer, Seigneur, quand tu nous demandes d'être transformés, ne pas rester sur ce que nous pensons savoir, sur ce que nous croyons savoir. Seigneur, utilise-nous dans ta main. Apprends-nous à faire fructifier dès aujourd'hui ce que tu nous as donné et à être reconnaissant pour le don ultime en Jésus-Christ que tu nous as fait. Amen.